Les chiffres, c'est un tel jeu d'instruction que je m'y perds.
Ah.
1, 2.
3, 4.
5, 6.
Bon, on l'a déjà faite, la balance.
Mais oui. Bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de MMUman, qui fait des calculs. Hein. Laurie et Medbel. Bonjour l'équipe.
Bonjour Cécile.
Hello.
Bonjour.
Et cette fois, le sujet abordé... Oh là, ça va me donner mal à la tête, ça parle de chiffres, c'est ça?
C'est, ouais, enfin, c'est le 80386.
Hein?
Le i386, c'est la pupus d'Intel là, qui est venue après le 286, dont on a parlé dans l'épisode, je sais plus, mais c'était pas le 286 parce qu'on était en retard.
Cette fois, on est en avance ou on est en retard?
On est en retard aussi, mais bon. Non, mais parce que c'était pile sur Terre du Geek et tout. Enfin,
c'est ça.
Voilà.
Donc, mais bon.
On en reparlera après.
Eh bien, rattrapons ce retard sur notre avance.
Voilà.
Et nous allons passer à l'actu d'abord.
Zaza.
Avec l'iFail.
Ah oui, on a quoi? On a des fuites?
Eh oui. Les laboratoires français CerbAlliance ont été victimes d'une cyberattaque. Les prises de données, ça change aussi de la prise de sang.
On a aussi eu une énorme fuite de données chez X, aka anciennement Twitter, qui est toujours restée sans réponse à ce jour.
Oh là là, il y a de l'IA. Ah, ça, il y en a.
Python a reçu plus de 500 candidatures pour GSOC. Google Summer of Code, la plupart étant de la bouillie générée par IA qu'il faut lire une à une. Mais sinon, ça va vous faire du gagner du temps, hein.
Même Cloudflare en a marre des IA qui pompent sans vergogne tous les contenus en saturant les tuyaux. Ils utilisent donc l'IA contre elle en lui proposant de siphonner un puits sans fond avec son labyrinthe à IA.
Pour la promotion de ses modèles, OpenAI se sert du style du réalisateur anti-IA Miyazaki.
D'après certains chercheurs, les gens qui utilisent beaucoup de ChatGPT deviennent dépendants aux chatbots.
Et on apprend que l'Europe a un plan pour devenir le continent de l'IA. C'est sûr. Pas plutôt l'incontinent de l'IA.
Très drôle.
Ouais. Et il y en a même chez les GAFAM.
Des employés interrompent la célébration des 50 ans de Microsoft pour dénoncer l'usage militaire de son IA, accusant leur direction de complicité de guerre en fournissant des services à Israël. Vous avez du sang sur les mains.
Du nord de la France à Jakarta, Microsoft a bien arrêté plusieurs projets de data center d'après Next. Microsoft a récemment arrêté ou reporté certains projets de construction de data center en Indonésie, au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis et en France, alors qu'il y a encore quelques mois, la mode était à la construction d'énormes centres de d'IA. Le géant du numérique planifiait déjà de freiner ses projets. Et ce alors que des associations comme le Nuage étaient sous nos pieds, demandent un moratoire sur les data centers. Ah, ils n'ont pas fait la même chose à Valence.
L'April, à son tour, se plaint du nouveau contrat Open Bar Microsoft au ministère de l'Éducation nationale et la décision de la direction de l'École Polytechnique de migrer ses services informatiques vers les serveurs de Microsoft.
L'autorité de la concurrence française condamnée à Apple à 150 millions d'euros d'amende pour abus de position dominante dans le cadre du ciblage publicitaire sur ses appareils.
Tuta ou Tuta, qu'est-ce que je dois dire?
Ouais.
Tuta?
Tuta, ouais.
Okay. Tuta a dû déposer plainte contre Apple pour finalement obtenir le droit de proposer son application comme client mail par défaut sur iOS.
À Barcelone, 2000 modérateurs travaillant pour Facebook et Instagram sont licenciés.
Super. Par une plainte auprès du tribunal d'Amsterdam, 5 sites comparatifs exigent de Google des dommages et intérêts d'un montant total de plus de 900 millions d'euros pour abus de pouvoir au niveau de son comparateur de prix.
Eh ben, il y a des tas de surveillance d'État aussi.
Faute de résultats, l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique est prolongée jusqu'en 2027 afin de pouvoir continuer à les tester. Les députés chargés de l'auditer n'ont identifié qu'un cas seulement où ça a été utile. Un ramasseur de champignons qui s'était égaré.
Le système de reconnaissance faciale en direct via des caméras montées sur des fourgons de police aurait permis d'identifier et arrêter plus de 500 criminels présumés recherchés par la police britannique avec 0,00075% d'erreurs. Ouais, elle sort d'où cette étude? Jusqu'ici, les études prouvaient que ça servait vraiment à rien, voire juste avant.
Le Conseil d'État annule le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie. Décidé en mai 2024, mais autorise le gouvernement actuel et ceux à venir bloquer les réseaux sociaux au nom de la théorie des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire sans une loi et en marge de l'État. Une décision inquiétante pour nos libertés, pour la quadrature du net.
Brutotu, j'ai fait une typo.
Pardon ?
Non, je disais, j'ai fait une typo en écrivant.
C'est ça.
C'est vrai. Brutotu.
L'Union européenne veut toujours mettre des portes dérobées dans le chiffrement.
Et pour une fois, une préfecture fait fermer un commerce pour une utilisation sans autorisation de vidéosurveillance. Oh. Quand même, la préfecture est plus efficace et dissuasive dans ses sanctions que notre autorité de contrôle.
Eh ben, c'est ben la peine. Bon, sinon, les ricains ricanent moins.
Oui, un des employés du Doge a auparavant fait du support réseau pour un groupe de cybercriminels.
Et ensuite, le Doge veut s'attaquer au code de... au code en COBOL de la sécurité sociale américaine. Ah bah ça va être la cata. Hein.
Des membres du Conseil de sécurité nationale du président Donald Trump, dont le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Michael Waltz, ont mené des affaires gouvernementales via des comptes Gmail personnels et Signal, alors que toute correspondance de ce type est supposée être sécurisée et archivée.
Le Spiegel dévoile que le numéro de portable et l'adresse mail privée de Pete Hegseth. Sûrement.
Oui,
le ministre US de la Défense est disponible en ligne, mais aussi celui de la chef du renseignement américain Tulsi Gabbard et du conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Pour ce dernier, le média a pu même accéder à son mot de passe pour ses réseaux sociaux. L'administration Trump est une passoire, alors qu'il se gossait qu'à l'époque les mails d'Hillary Clinton.
Sous couvert de lutte contre la corruption et les ennemis des États-Unis, l'administration Trump veut aussi fermer Open Tech Fund, l'organisme qui, depuis les printemps arabes, subventionne les logiciels type Signal, le projet Tor.
Ouais, des trucs très bien, quoi. Ouais. Bon, puis alors en vrac, deux, trois trucs.
La base de données génétiques OpenSource OpenSNP ferme et va supprimer ses données pour protéger ses utilisateurs des gouvernements autoritaires.
Et un malware Android vicieux qui nécessite un mot de passe pour le supprimer a été trouvé.
Voilà, donc si vous êtes victime aussi, vous pouvez les, trouver les liens pour trouver le mot de passe sur...
underscore.radio.fm.
Eh ben oui.
Allez, une petite musique de Razor 911.
Allez.
Et on se retrouve tout de suite après pour notre sujet du jour avec des chiffres, avec 83, 8, 6.
C'est ça.
Ok.
Qu'on a oublié de la normaliser celle-là parce que les vue-mètres ils étaient dans le rouge, j'ai dû baisser après.
C'était The Mode Razor 911 des Cracktro. Et oui, effectivement, elle est un petit peu, oui, dure.
Voilà, mais c'est sympa. C'est du dub mood. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est du Razer 911, quoi.
Non, mais il faut que ça pulse. Hein.
C'est ça. Vous êtes réveillé?
Ah bah là,
tout
j'espère.
Tout le monde est réveillé,
ouais,
dans le studio. Maître Bell, t'es avec nous? T'es réveillé?
Oui, oui, c'est pas rasoir, c'est
ah,
Razer.
Bon.
Eh, c'est Razer, on est d'accord.
Ah, bon.
Eh bien, passons au sujet du jour. On t'écoute.
Alors, le 80386, on dit souvent plutôt 80386 ou juste 386. Et voilà. Et alors, ben, comme pour le 286, comme je disais, on a raté le coche de l'émission numéro 386, mais mieux vaut tard que jamais. Mon premier PC qu'on m'avait donné, après mon Oric, parce que j'ai eu un Oric, donc pendant très longtemps j'ai m'amusé avec l'Oric, était un portable avec un 386 et 1 mégaoctet de RAM. Enfin, j'ai dû l'ouvrir pour compter les puces et voir qu'il y avait bien 1 mégaoctet, puisque le BIOS, lui, en énumérait un petit peu moins quand même.
Ah ouais, tu t'es fait voler.
Ouais. Bah non, mais on va me l'avait donné, mais bon, je vais le donner, hein, on regarde pas les dents. Mais quand même, je me suis dit à un moment... J'ai ouvert et puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ces puces-là, normalement, elles font... Nanana, et puis, ça devrait faire un mégaoctet. Ils sont passés où, les 192 kilos, je sais pas quoi, qui manquaient.
Je sais pas.
Voilà. Donc, après plusieurs nuits, à tester tous les registres possibles du chipset, à envoyer plein de valeurs dans tous les sens pour savoir, tiens, ça fait quoi, ça? Ah non, ça a éteint l'écran. Bon, c'est pas ça. J'ai fini par trouver un moyen pour avoir accès à toute la RAM disponible. À un moment, j'ai essayé plein de trucs, puis j'ai redémarré, j'ai dit... Oh, il a trouvé un méga. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il trouve un méga? Voilà, écrire un pilote DOS pour le faire au démarrage, et donc après rebooter encore une deuxième fois pour qu'il énumère bien la RAM. Oh, joie, j'ai enfin pu accéder à Windows 3.0 en mode protégé. Waouh! Là, j'avais l'impression d'être Dieu, là. D'ailleurs, il est un peu en sale état, ce PC. L'écran LCD a changé, on dirait qu'il a été mangé par des vers de terre ou je sais pas trop quoi, il y a vraiment des espèces de serpentins dessus, c'est vraiment bizarre. Voilà, le disque dur ne démarre plus, hein, voilà, sans parler de la batterie, je sais même pas quelle chimie elle utilise, donc pour la remplacer, c'est pas gagné. Mais bon, donc, revenons au 386, sorti en 1986, tiens donc, celui-ci va succéder au mal-aimé 286, dont nous avons déjà parlé dans l'émission 292, voilà, va enfin apporter une vraie architecture 32 bits avec un adressage de 4 gigaoctets, même si à l'époque ça se faisait pas encore trop parce que ça coûtait très cher, une MMU pour supporter la mémoire virtuelle.
Ah bah toi alors, non?
Ouais, j'étais là. et même un mode émulation du 8086 d'origine pour la compatibilité, je vous en reparle après. Donc plusieurs années ont été nécessaires pour sa conception, avec encore beaucoup de travail manuel, même si des outils de conception numérique ont également été utilisés. Donc parmi les liens, je vous mettrai notamment une vidéo d'une heure qui explique par des ingénieurs d'Intel qui explique en fait le processus de la conception du 386. Ainsi que nous l'avions raconté, le 286 n'a pas eu le succès prévu, notamment parce que le fameux mode protégé qu'il avait introduit était incompatible avec le code existant, et il n'était même pas prévu d'en sortir une fois initialisé. Parce que Intel a jugé que bah, c'était tellement mieux que pourquoi quelqu'un voudrait quitter le mode protégé, en fait.
Bah oui.
Bah oui, c'est évident. Voilà. Donc ce qui a conduit d'ailleurs les fabricants de PC à devoir utiliser le contrôleur clavier pour littéralement réinitialiser le processeur pour sortir le processeur du mode protégé de force. En gros, c'est comme si on l'éteint, on le redémarre et hop, il n'est plus en mode protégé.
Eh ben bien.
Voilà, c'est un peu... Ah ouais, c'est un gros hack, hein, mais bon, ça fonctionnait. Hein, mais enfin, c'était très lent. De plus, celui-ci, le 286, il était limité à 16 mégaoctets d'adressage. Et là, ça commençait à devenir un petit peu limite pour certaines applications. Mm. Le 386 a donc été conçu notamment pour pallier aux déficiences du 286 et faire tourner des langages et des systèmes d'exploitation qui devenaient à la mode, comme le Pascal, le C, le fameux langage C, et Unix, qui a été écrit notamment en langage C. Enfin, les premières versions, c'était de l'assembleur, mais bon, c'était surtout du C. Pour corriger les problèmes posés par le 286, Intel a donc doté son successeur d'un mode protégé plus pratique à utiliser, notamment pour en sortir, et utilisant les capacités totales d'adressage permises par le 32 bits. Tout en conservant la segmentation, permettant donc d'utiliser 4 gigaoctets par application, et donc même beaucoup plus avec de la mémoire virtuelle.
C'est là où on swappait sur le disque dur, c'est
voilà,
ça?
Voilà, exactement. Chaque application ayant sa propre vue de la mémoire, en fait, enfin de ce qui lui a été autorisé de voir. Et donc pour cela, une MMU a été, donc c'est Memory Management Unit, unité de gestion de la mémoire, avec des tables de pages en arborescence que le système d'exploitation est chargé de maintenir en fonction des allocations mémoire demandées par les applications et qui va donc faire la traduction des adresses virtuelles, donc ce que la vue de la mémoire que le programme a, vers les adresses physiques, c'est-à-dire l'adresse dans les puces des barrettes de RAM. Donc soit directement, si la page est en mémoire, soit en passant par un code qui va justement aller chercher sur le disque, dans le fameux fichier ou la partition de swap. Sur Windows, c'était plutôt un fichier, sous Linux, c'était plutôt une partition, mais des fois, ça dépend. Les pages à chercher, parce qu'en fait, du coup, la MMU, elle découpe la mémoire en pages. Souvent, c'est des pages de 4 kilooctets. Et donc, il y a une table avec une table, deux tables, deux tables, avec des tables dans des tables, qui dit, en fait, de telle adresse à telle adresse, c'est la table, elle est là, puis de telle adresse, et machin. Et au final, on a des tables de pages. Et donc, en fait, pour chaque bloc de 4 kilooctets possible, on peut avoir une table, pas tout le temps, toute la mémoire n'est pas représentée, parce que sinon, il faudrait toute la mémoire pour la mettre dedans, ça prend de la place. Mais donc, on peut dire, telle page, elle est à tel endroit en mémoire physique, ou alors, en fait, elle n'est pas en mémoire physique, il va falloir aller la rechercher sur le disque dur.
Alors, c'est des pages ou des plages ?
Alors, c'est des pages parce que ça a une taille fixe.
Ok.
Voilà. Et tu peux. Après, il y a des options dans certains processeurs où tu peux avoir carrément des plages mémoire où tu dis, en fait, tu as 50 pages de 4 kilooctets qui c'est à tel endroit. Tu peux avoir des traductions parce que c'est plus rapide à implémenter aussi pour certaines applications. Mais voilà, du coup, ça a complexifié beaucoup l'architecture, notamment de cet aspect-là, sans parler même des nouvelles instructions pour supporter notamment le langage C, le Pascal, tout ça. De plus, puisque le mode protégé n'est pas compatible avec de nombreux comportements des applications DOS, un mode spécial, le mode 86 virtuel, a été ajouté, qui se comporte comme le processeur d'origine, mais déclenche des exceptions sur certaines fonctions privilégiées. C'est-à-dire qu'il va exécuter l'application comme si elle était sur un 8086, donc le vieux, le premier de la lignée, en fait. Sauf que quand l'application, sous DOS, a priori, va vouloir écrire sur notamment sur le port d'imprimante, par exemple, ou le port série, ou aller lire le clavier, en fait, elle va, au lieu d'aller vraiment chercher dans le contrôleur clavier, elle va déclencher une exception, donc c'est une espèce d'interruption mais logicielle. Et là, c'est le système d'exploitation qui va reprendre la main et qui va dire « Ah, tu veux parler au port clavier ? Eh bien, en fait, je vais aller chercher dans ma mémoire des saisies clavier et je te refile la valeur. » Et donc, en fait, c'est un peu le début des machines virtuelles. En fait, c'est comme une vraie machine virtuelle. C'était la fameuse boîte DOS sous Windows 3.1.
C'était pas lent ?
Eh ben, c'était plus lent que si on l'avait directement en natif démarré directement sans passer par Windows, sauf que ça permettait de faire du multitâche. Parce que du coup, là, autant les applications Windows, entre elles-mêmes, elles n'étaient pas complètement protégées. Donc, elles n'étaient pas protégées des perturbations des autres, et puis elles pouvaient même bloquer, c'est-à-dire que le multitâche était coopératif. Il fallait que l'application Windows d'elle-même décide de laisser les autres tourner. Par contre, les boîtes DOS, elles, puisqu'en fait, les applications DOS, elles n'étaient pas prévues pour être coopératives, Windows les préemptait, et donc là, c'était vraiment géré en multitâche. Voilà. Donc en fait, le DOS était plus multitâche dans Windows que les applications Windows. Après, ça a lentement évolué, mais ça, c'est une autre histoire. Donc oui, c'était plus lent, mais ça permettait d'avoir plusieurs logiciels sous DOS en même temps, et donc pour certains cas, c'était vachement pratique. Alors tout ça est bel et bien, mais ça coûte quand même très cher tout ce silicium. Hein. La première version contenant quand même 275 000 transistors sur 1 cm² de plus.
On s'imagine pas comment c'est tout petit.
Ah ben ouais. Et encore, c'était il y a...
Et encore, c'était gros.
Voilà, c'est pour... Finalement. Par rapport à maintenant, c'était énorme.
Ouais.
La taille, je veux dire. Donc c'était pas très dense en fait à l'époque, mais bon. Une version SX... Alors j'ai appris justement en préparant l'émission que ça voulait dire single word external, donc en fait c'est pour dire qu'il y a un seul mot sur le bus de données à l'extérieur de la puce, donc a donc été mis sur le marché 2 ans plus tard avec moins de broches, donc un paquet plus petit, donc moins cher à produire, et du coup il y avait moins de transistors, un petit peu moins parce qu'il y avait moins de choses à gérer, et donc un bus de données de 16 bits seulement et 24 bits d'adresse. Donc ça veut dire qu'en fait il était c'était toujours 32 bits à l'intérieur, mais en fait, la connexion avec l'extérieur était plus limitée, mais du coup, ça revenait à moins cher pour certaines utilisations. Et puis, il n'y avait pas encore besoin de 4 gigas de RAM dans les PC. C'était juste pas imaginable pour le grand public. Et ça permettait aussi de réutiliser des designs de cartes mères conçues pour le 286 et de les rentabiliser un petit peu parce que, justement, ça ne se vendait pas. En fait, le 286 était tellement naze que, en fait, les gens sont passés directement du 486 au 386.
Mmh.
Voilà. Le 386 normal est alors dénommé DX pour Double Word External, voilà, pour bien faire la différence.
Et pour nos auditeurs, ça doit leur parler, le 386DX, mais même après, le 486DX, et ça bah, c'était...
Voilà, mais après c'était pour dire qu'il y avait le coprocesseur flottant dedans, mais, enfin, mais c'est Intel, faut pas trop chercher. Donc le premier modèle allait jusqu'à 12 MHz de fréquence d'horloge, et alors à 20 MHz, les modèles suivants, ils étaient capables d'aller de 4 à 5 MIPS, donc des millions d'instructions par seconde, sachant que ce n'est pas forcément la meilleure unité de mesure pour les calculs, parce qu'une architecture RISC, par exemple, ben, elle a besoin de plus d'instructions pour faire les mêmes calculs, mais elle peut être quand même plus rapide pour faire ces fameux calculs. Par contre, Intel cessera de distribuer des licences à d'autres fondeurs, estimant pouvoir se passer de secondes sources, comme c'était le cas jusqu'ici, et qui servait à rassurer les constructeurs sur la pérennité de l'architecture. Il y aura tout de même un accord de licence avec IBM qui produira le 386 SLC, une version basse consommation, mais les autres comme AMD ou Cyrix, qui juste ici se contentaient de produire des puces identiques en fait à celles d'Intel, hein, comme seconde source, c'est-à-dire une seconde source d'approvisionnement pour les fabricants, vont alors recommencer à faire leur propre conception de puces compatibles, mais différentes, avec leur propre design, comme à l'époque où NEC avait innové avec le V20 qui était compatible avec le 80-88. Donc ça, c'était les vieux.
À l'époque des 16 bits.
Voilà, c'était avant. Et il faudra attendre que le 486 pour avoir du cache intégré à la puce, c'était pas encore tout à fait ça, hein, ainsi que le coprocesseur à virgule flottante, qui là est toujours externe, donc en option sur les PC. Et d'ailleurs, le 387, donc le coprocesseur qui allait avec, il n'avait pas été mis sur le marché en même temps. Donc les premières cartes mères 386, elles utilisaient des 287, donc le coprocesseur flottant du processeur d'avant, parce que l'autre n'était pas encore disponible. La fabrication n'a pas été sans problème. Il y a eu des rappels apparemment des échantillons à cause d'un bug dans la multiplication causé par des interférences. Parce que là, quand on commence à aller sur 20 MHz, 12 MHz, là... Si des transistors ils sont trop proches, des fois ils s'influencent, donc il faut les éloigner un peu, donc il faut refaire des masques et tout ça. Donc voilà, le Pentium n'était pas le premier à faire de faux calculs.
Ah oui, comme quoi.
Ouais, comme quoi. Certains téléphones ont même utilisé une variante du 386, comme le BlackBerry 950 ou le Nokia 9000 Communicator. C'était un espèce de PDA, en fait, avec, ça s'ouvrait un peu avec un petit clavier comme ça, à l'horizontale. C'était assez sympa. Voilà. Et alors maintenant, ben, en fait, la production a été arrêtée en 2007 seulement. J'ai découvert ça. Probablement parce que le 386 est utilisé dans de nombreux systèmes embarqués. Donc, il y a des systèmes qui doivent être maintenus pendant 30 ou 40 ans.
Oui, il y a encore en fait. Des 68 000 dans le métro. Hein.
Ouais, dans les trains, effectivement, ouais. Et si la plupart des systèmes d'exploitation actuels ont supprimé le support du 386, alors c'était arrivé en 2012 pour Linux, alors qu'en fait, Windows 98 déjà nécessitait un 486. Hein, il commençait déjà l'obsolescence programmée chez Microsoft.
Eh oui.
Eh bien, certains résistent, comme Gray 386 Linux, une distro spécifiquement pour ce processeur, en utilisant la dernière version du noyau qui le supporte, la 3.7.10.
Waouh.
Si, si, si. Et il existe même des machines récentes avec ce CPU, comme le Pocket 386. Bon, c'est près de 250€ tout de même, hein, pour faire du rétro gaming, du rétro computing.
J'ai l'impression d'être chez Nintendo pour acheter une Switch 2.
Ouais, ça pique un peu quand même. Bon, même si au moins on trouve un petit peu de documentation. Ou le Han 386, qui est. Ça ressemble un peu à BlackBerry, mais 4 fois plus gros. Il y a un clavier en dessous de l'écran. Enfin, voilà.
Ah, mais bon, il faut trimballer ça dans une valise, je crois.
Bah, justement, non, c'est plus petit. Ça évite d'avoir à trimballer une valise. Ah. Parce que quand même, les laptops de l'époque, ils étaient bien mastoc.
Oui, c'est clair.
Voilà. Quant à moi, je vais surtout devoir réparer mon vieux laptop. Hein. Ça sera peut-être l'occasion d'un stream, qui sait. Voilà. Bon, c'est sûr, ça vaut pas un 68 030, mais bon.
Eh oui. Voire un 68 040 ou 68 060, voilà.
Voilà, mais en fait, c'était... je pense que, ils se calaient un peu l'un sur l'autre. Intel, c'est 386, donc il y a un 3. Donc, Motorola... Ah, mais je vais mettre un 3, donc c'est 68 030. Mm-hmm. Bon, enfin... Ouais, c'est sorti plus ou moins en même temps à chaque fois, les générations. Mais...
Mais oui, mais entre le 68 060 qui était sur Amiga, je crois, sur les 4000, je crois, et puis sur les... C'était sur les 1000 ans, je crois, où on avait ce genre de processeur.
Ouais, les clones d'Atari, les 1000 ans, ouais, ils avaient utilisé un 060. Ouais.
C'est ça.
Voilà, voilà. Eh bien,
eh bien, merci. J'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde. Non, non, tu as découvert des choses. Ah oui, vas-y, MMU. Medbel.
Je voulais dire, Ola, c'est un autre moteur. Motorola, Ola, c'est un autre
moteur. Oh là là.
Ah, il fallait nous la faire.
Moteur, oh là là.
Oh là là.
Oh là là. Oh là là.
Eh bien, oh là là.
Oh là là.
Eh bien, passons à une petite coupure de musique, d'une musique qui a sûrement mal tourné sur les réseaux sociaux.
Mal tourné? Ah,
ouais.
Ouh, tu me fais peur.
Ah oui, mais écoutons ça.
Bah, on va voir. Hein.
C'est ça.
Steve le le poisson Steve. Il est orange. Il a des bras et des jambes. Le poisson Steve. Poisson Steve, il est vraiment très beau. Il peut nager sur la terre, il peut marcher dans l'eau. Le poisson Steve, il sent forcément mauvais, mais on l'aime bien.
Des paroles engagées.
Ok. 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 Là, je sais pas quoi dire en fait.
Les poissons Steve. Donc, ouais, c'est inspiré ça. Du personnage original de Vince. Vince. Je sais pas le prononcer. Désolé.
Vince. Je sais pas.
Voilà. Mais bon, ça a peut-être réveillé certains auditeurs.
Ah, ben oui, ça réveille, oui. Oui.
Mais oui.
Oui. Allez, tant que ça fait pas vomir après la digestion.
Mais non, on est juste au moment de manger. Donc, ça devrait le faire. Allez, passons à l'agenda. Alors, nous avons l'atelier dégoogliser son téléphone portable. Cet atelier est destiné aux personnes possédant des smartphones Android et à peu près tous les smartphones, tout sauf ceux d'Apple. Prévoir de venir avec un téléphone chargé avec Android installé, un chargeur et puis un apéro dînatoire tiré du sac. Donc, c'est sur inscription ovale le 23 avril de 18h à 21h, 13 bis rue Montplaisir à Valence.
Atelier lampe à Noël chez Fabrico. Des ateliers enfants pour les enfants de 10 à 16 ans pendant les vacances de printemps. Viens créer ta lampe en nano à LED. C'est payant 60 euros par adhésion. Adhésion 7 euros par an ou 2 euros par jour. Sur inscription, fablabfabrico.fr. Alors, c'est au 09 73 88 49 59 ou 07 49 93 81 12. C'est les jeudi 24 et vendredi 25 avril de 14h à 16h au Fabrico, 7 rue Belle Image, 26000 Valence.
Et c'est tout pour l'agenda ?
Oui.
Ah, bon.
Et puis vous aurez les liens sur notre blog _.radio.fm, du lien et des liens. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper ?
Alors, eh ben, vous voulez un avatar façon Ghibli, mais sans demander à une IA qui plagie ?
Oui.
Ah, eh ben, j'ai trouvé un tutoriel en vidéo pour faire son autoportrait en 10 étapes dans ce style caractéristique.
Impeccable. Bon,
j'ai pas encore essayé. Hein.
Ah, moi, j'aimerais bien.
Mais voilà, si tu bon, nous diras.
Voilà, y a
tu nous montreras surtout.
Exact.
Si vous avez un véhicule et que vous avez besoin d'y mettre une carte de mobilité inclusive, on a trouvé un modèle de porte-carte à imprimer en 3D sur Thingiverse, donc en bleu et blanc, là, avec le petit symbole du fauteuil, voilà, et à ventouser sur le pare-brise.
Parfait.
Voilà, ça peut être utile. Et puis parce que, faut bien jouer un peu quand même. Petit, vous aviez un Mac et vous étiez jaloux du démineur de Windows. Mm. Eh bien, macOS 6 et 7 ont maintenant un démineur digne de ce nom et fonctionnant en accessoire. Voilà.
Ah, bah ça, il faudrait que je l'installe. Une fois que mon ordinateur fonctionnera mieux. Astrologique, frottons cette boule. sysadmin, faire ses sessions, c'est se connecter plusieurs fois.
Librist, non, la licence 4 n'est pas une licence libre.
Demo-maker, quoi? Vous n'avez rien préparé pour la VIP? Non, je rigole, il n'y a pas de compo cette fois-ci.
Imprimeur, n'oubliez pas de bien en coller la reliure des e-books avant de les vendre.
Électronicien, je suis fluxitarien. Ça se mange pas, le flux.
Biohacker, non. Un biofilm n'est pas un documentaire biographique.
Ah
non. Mais non, c'est des colonies de bactéries, donc...
Ah oui, donc c'est pas la même
c'est
chose.
C'est pas très ragoûtant.
Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un film naturel de quelque chose.
Bah, c'est en fait ce que les bactéries sécrètent pour faire justement un film qui va tapisser des cailloux, des voilà. Donc c'est pour se protéger elles-mêmes en fait.
D'accord. Voilà. Eh bien voilà.
C'était l'instant on apprend.
Mais oui, voilà. Tout à fait. Eh bien, merci à mes auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Ce numéro a été préparé avec Amy Muman sur la partie technique, mais également sur notre sujet. Et puis, nous sommes enregistrés dans les studios de Radio Méga. Retrouvez-nous sur underscore.radio.fm. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur Radio Cactus ou Radio Méga. Tout dépend où vous nous écoutez. Cette fois, ce sera un sujet proposé par notre ami Medbel, qui nous parlera d'un instrument électrique.
Tout en plastique.
Ah, mais du coup, c'est les cordes qui sont en plastique? C'est un instrument à cordes ou c'est...
On verra.
Ah bon.
C'était une commande de moi, je crois.
Ah, alors,
allez, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao. Bye. Salut.
Bye bye.
Salut.
Bonjour Mimane, bonjour, bonjour, bonjour.